Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de cette pub pour un parfum? On l'appelle le numéro 5. C'était dans les années 80, il y avait une actrice célèbre, de belles bagnoles, mais ce qui comptait, c'était la musique. La chanson qu'on entendait dans cette pub s'intitulait « My baby just cares for me », un morceau ancien, quasi ressuscité, puisqu'il avait été publié 30 ans plus tôt, à la fin des années 50. En tout cas, avec cette pub, nous sommes sans doute un certain nombre à avoir découvert la femme qui interprétait cette chanson. Elle s'appelait Nina Simone. Vous voyez où je veux en venir? Ce matin, Popenko est une plongée d'une heure dans la vie, le répertoire de Nina Simone et dans l'histoire de son pays. Si cette semaine vous avez peut-être vu un excellent documentaire diffusé sur France 2, c'est Noir en France, le parcours de Nina Simone pourrait être sous-titré « Être une femme artiste noire aux États-Unis ». Et c'est le récit d'un destin brisé, autant qu'une série de chefs-d'œuvre pour le patrimoine de la musique mondiale. Il y a la voix de Nina Simone, son jeu au piano, il y a ses reprises, qui surpassent souvent les originaux, et il y a sa lutte, inextinguible, pour les droits civiques. Popenko, ce matin, c'est donc l'histoire d'une artiste, d'un combat, d'une gloire et d'une souffrance. Cette femme fut Nina Simone, pour le pire comme pour le meilleur. Bonjour, bienvenue, c'est Popenko.
France Inter, Rebecca Manzoni. Popenko.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Nous sommes en 1964. Nina Simone s'apprête à chanter Brel et une professeure la guide pour la prononciation française.
Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer.
Pleurer.
Je ne vais plus pleurer.
Pleurer.
Ah, it's like il ne pleut pas.
Pleut pas,
so we have pleurer, and it's Je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Any other bad ones?
Nina Simone demande, est-ce qu'il y a d'autres erreurs? Et elle enregistre quelques mois plus tard. La chanson figure sur l'album I Put a Spell on You en 1965.
Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.
Brel, Aznavour, Beko, Ferra, elle les a tous chantés.
Ne me quitte pas.
En français.
Ne me quitte pas.
En fait, il faudrait qu'il y ait un rayon spécial Nina Simone dans les magasins de disques.
Je vous présente Frédéric Adrian, auteur d'une biographie de Nina Simone, parue aux éditions Le Mot et le Reste.
Elle est rattachée au jazz parce que, bon, c'est pas trop où la mettre. En fait, il faudrait qu'il y ait un rayon spécial Nina Simone dans les magasins de disques. Il y a quelques artistes comme ça, elle mériterait son propre rayon. Parce que elle transcende les genres. Il faudrait trouver un genre qui permette de croiser du Gershwin, les Bee Gees, du Prince, puisqu'elle a même enregistré à la fin de sa carrière, du folk israélien, des musiques africaines. Enfin, quelque part, elle incarne vraiment la pop au sens large, la pop sans frontières. Très clairement, c'est une catégorie propre.
Tryon, 1700 habitants, c'est dans cette petite ville de Caroline du Nord que Nina Simone est née. En 1933. Enfin non, c'est pas ça. Elle n'est pas encore Nina Simone. Pour l'état civil, elle s'appelle Eunice Kathleen Wemon. Elle a 7 frères et sœurs, un père qui fait des petits boulots, une mère qui est femme de ménage et pasteur à l'église. C'est là que Nina Simone apprend à chanter. Et ses dons au piano sont repérés très tôt, au point que, vers 10 ans, Eunice Kathleen donne un concert à l'hôtel de ville de Tryon. Et puis...
Ça fait quelques années qu'elle prend des cours de musique un petit peu organisés, qu'elle est un peu une vedette locale, qu'elle joue régulièrement pour le public de la ville. Et ce jour-là, elle est invitée donc à jouer dans une salle un peu prestigieuse, une salle, un vrai lieu culturel, pas l'église comme elle, où elle joue habituellement. Et quand elle arrive sur scène, elle voit ses parents au premier rang, mais surtout elle voit des gens qui viennent leur demander de changer de place pour laisser la place au premier rang à d'autres habitants de la ville, blancs. Et ça la choque énormément. D'ailleurs, elle l'a raconté beaucoup, beaucoup de fois dans sa carrière. Elle le raconte dans son autobiographie. Et donc, elle réfléchit pas. Pourtant, elle est jeune. Elle a sans doute pas 15 ans. Enfin, c'est encore une enfant. Et elle dit non, pas question. Je ne joue pas dans ces conditions-là. L'incident, je pense, stupéfie tout le monde parce que c'est une enfant qui va jouer de la musique classique. On imagine quelque chose d'un petit peu cadré. Les personnes s'éloignent et laissent la place aux parents. Tout se passe comme prévu et ses parents resteront au premier rang pour la voir triompher sur scène. Mais c'est le premier moment où elle s'affiche, où elle affiche fortement et sa personnalité et sa capacité de rébellion.
1954, Eunice Kathleen Wemon est dans une autre ville, Atlantic City, cité balnéaire du New Jersey. Et elle a un autre public, celui d'un petit club qui s'appelle le Midtown Bar. Elle raconte que quand elle est arrivée, elle a commandé un verre de lait au comptoir et que tout le monde s'est marré.
C'est un bar à poivrons, je dis ça en général. C'est à Atlantic City, donc c'est une espèce de cité balnéaire, très populaire, avec des casinos, des salles de spectacle, qui attirent beaucoup de public. Et puis, voilà, il y a les clubs un peu luxueux, où passe Armstrong, où passe Sinatra. Mais il y a aussi des petites choses moins importantes, où les gens viennent plutôt pour boire. Et c'est là qu'Eunice, elle arrive. Elle est jeune, mais elle a besoin d'argent pour payer des cours de musique, pour passer des concours de grandes écoles musicales. Et elle se retrouve par le biais d'un agent, dans ce club pas génial, on va dire spontanément. Il y a des fuites d'eau, il y a la cuisine au fond, il y a des gens qui parlent tout le temps, etc. Et elle se fait embaucher pour jouer pour la saison, pour jouer pour les clients. Et elle n'en est pas très fière. C'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est la belle robe, c'est le Carnegie Hall, c'est jouer du Bach sur une grande scène devant un public très attentif. Donc elle n'a pas très envie d'utiliser son vrai nom. Elle n'a pas très envie que sa maman en particulier, qui est très hostile à la musique populaire d'une façon générale, sache qu'elle va jouer dans les bars. C'est pas très très bien. Et donc, elle décide de prendre un pseudonyme, de s'inventer un nom. Ce nom, c'est Nina Simone. Nina, c'est un surnom que lui aurait donné un ancien petit ami d'origine espagnole. Simone, c'est peut-être, en tout cas c'est ce qu'elle dira des années après, un hommage à Simone Signoret, qui est assez connue aux États-Unis puisque certains de ses films ont été diffusés. Et à partir de ce moment-là, et pour les 50 années qui suivent, c'est Nina Simone.
Le 19 décembre 1959, Nina Simone apparaît dans la télé américaine pour la première fois. L'émission s'intitule « Le Playboy's Penthouse ». C'est l'un des rares programmes à faire une large part aux artistes afro-américains. Bonsoir, ravi de vous avoir avec nous ce soir. Je suis Hugh Hefner, rédacteur en chef du magazine Playboy. J'ai avec moi quelqu'un que vous êtes nombreux à connaître, c'est Nina Simone. Elle a surgi de nulle part l'an dernier avec un très gros tube, Porgy, qui bat tous les records de vente. Nous sommes très heureux qu'elle ait pu venir ce soir. Vous voulez entendre Porgy? Porgy, extrait de l'opéra Porgy and Bess des frères Gershwin, Nina Simone l'avait joué dans les bars d'Atlantic City. I love you, Porgy. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever and ever. C'est donc avec cette reprise qu'elle s'est fait connaître, mais jouer du Gershwin, yes, I love you, Porgy, c'était pas son rêve.
On lui a mis en tête aussi les gens qui la protègent, qui lui font faire des cours, qui ont identifié qu'elle a vraiment un talent, qu'elle a vraiment un don, lui ont mis en tête cette idée d'être la première concertiste noire, que c'était quelque chose qui était possible pour elle. Il faut dire que ce sont des gens de petites villes, même si c'est des gens de bonne volonté, c'est pas des grands professeurs, elle est pas à New York, elle est pas à Philadelphie, elle est à Traian, et ils ont peut-être pas une connaissance totale des rouages du monde musical. Il n'empêche que cette idée-là, elle est très forte, elle est très puissante, et elle s'y accroche et elle y travaille, avec un objectif qui est de passer le concours de l'Institut Curtis, qui est à Philadelphie, qui est une école extrêmement réputée, extrêmement sélective aussi, sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et elle n'est pas retenue. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent qu'elle ne soit pas retenue. C'est un concours qui est très dur. On n'a pas les notes du jury de Curtis. Il n'y a pas de notes écrites, ou en tout cas qu'on ait retrouvé sur ce sujet-là. Par contre, on a les notes de son stage à Juilliard, des appréciations de ses professeurs, qui là sont des professeurs de musique classique, de haut niveau, habitués à avoir joué des professionnels du classique. Et les notes qu'elle a, elles sont moyennes. Personne à Juilliard n'est ébloui par son jeu de musicienne classique. Donc le fait qu'elle soit refusée à Curtis peut s'expliquer par la concurrence, par le niveau qu'elle a. Sachant qu'il y a déjà des musiciens afro-américains qui sont élèves à Curtis, il y en a qui ont été diplômés depuis plusieurs années. C'est pas quelque chose de neuf pour Curtis, c'est pas quelque chose d'absolument invraisemblable.
Mais elle en donnera une autre interprétation de cet échec.
Elle l'interprète comme une manifestation de racisme. Elle considère qu'elle a été refusée à Curtis pour sa couleur de peau. Elle en est convaincue, elle n'en démordra pas de toute sa carrière. C'est un sujet sur lequel elle est revenue à de très très nombreuses reprises, évidemment dans l'autobiographie, mais aussi dans les interviews. D'abord parce que les journalistes lui en parlent beaucoup, lui font souvent raconter cet épisode. Et c'est très clairement une blessure majeure dans sa construction intellectuelle. C'est quelque chose dont elle ne se remet jamais. Le fait qu'elle ait pensé avoir été refusée à cause du racisme, ça a un impact très très fort sur sa personnalité, sur sa construction et sur la suite de son œuvre.
Et là, Nina Simone est l'invitée d'Ève Ruggieri pour l'émission Musiques au cœur sur Antenne 2. Nous sommes le 23 octobre 1991.
Aujourd'hui, vous êtes une très très grande vedette, reconnue dans le monde entier. Mais est-ce que quelquefois, vous regrettez cette carrière classique que vous n'avez pas pu faire ?
Oui, je le regrette. Je suis désolée de ne pas être devenue la première pianiste classique noire. 40 ans après son échec au Curtis Institute de Philadelphie, c'est avec cette voix que Nina Simone déclare « Je crois que j'aurais été plus heureuse. Je ne suis pas très heureuse en ce moment. » Son jeu comme sa musique resteront nourris de sa formation classique. Mais pour gagner sa vie, elle grave un autre répertoire sur disque. Little Girl Blue, son premier album, est surtout composé de morceaux lents et pour pimenter l'affaire, elle enregistre ceci. My baby just cares for me. Nous sommes en 1958. My baby just cares for me. My baby. And races, my baby don't care for. Hot tone places. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care. Cette chanson qu'on fredonne, qu'est-ce que c'est en fait ?
La seule chose qui intéresse mon chéri, c'est moi. Elle le dit dans la chanson, c'est les actrices, des trucs comme ça. Non, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est moi. C'est une vieille chanson. Donc c'est vraiment une chanson vérité. C'est un truc qu'elle a gravé en fin de séance lors de l'enregistrement du premier disque parce qu'il y avait encore un peu de temps et qu'on voulait être sûr d'avoir assez de chansons à mettre sur le disque. Elle passe complètement inaperçue à l'époque. Elle sort pas spécialement. Elle est pas spécialement mise en valeur par le label.
Donc là, on était à la fin des années 50.
À la fin des années 50. Elle-même n'est pas connue. La chanson est un truc qui a déjà été enregistré par plein de personnes. Ça remplit 2 minutes 30 sur un album et c'est fait pour servir à ça.
Jusqu'au début des années 60, Nina Simone interprète essentiellement des reprises. Donc les chansons ne sont pas d'elle. Et pourtant, on la reconnaît tout de suite. Avec son piano, avec sa voix.
She does not know her beauty.
Elle a composé la mélodie de ce morceau, Images.
She thinks her brown body has no glory. If she could dance naked under palm trees and see her image in the river, she would know. Yes, she would know.
Ce texte est un classique de la littérature afro-américaine signé du poète Waring Kenny. Les vers sont les suivants. Elle ignore sa beauté. Elle pense que son corps foncé est sans gloire.
But there are no palm trees in the street. No palm trees in the street. And dishwater gives back. No image.
En fait, c'est une voix tellement ténébreuse, profonde, hantée, et pour moi, ça rentre dans le panthéon de mes voix favorites.
Je vous présente Mélissa Lavaux. Elle est québécoise, elle vit en France et s'apprête à publier un nouvel album sous le titre Mama Forgot Her Name Was Miracle.
Pour moi, Nina Simone, c'est non seulement une voix qui est vachement formée, mais c'est une voix qui est surnaturelle. Et pour moi, reprendre Nina Simone, c'est tellement compliqué. Parce qu'on n'arrivera jamais à avoir ce timbre, on n'arrivera jamais à avoir toute l'histoire qu'elle porte dans sa voix. Et c'est quelqu'un qui arrive à vraiment faire en sorte que son histoire habite sa voix. Et moi, je trouve que 90% des reprises de Nina Simone sont des voix méga lisses. Parce que les gens sont obsédés par la voix la plus lisse possible, la voix la plus parfaite, par un pet, par une craquelure. Et Nina Simone avait des craquelures, Nina Simone avait des failles. Je sais pas, à chaque fois que je vois une vidéo ou que je l'entends chanter ou je la vois jouer, c'est quelqu'un qui est tellement entièrement habité par son art. Ou genre, je sais que moi, il y a des moments où je suis sur scène, je pense à 50 000 trucs et j'ai du mal à me recentrer et me dire genre... Là, c'est que la voix. Là, c'est que la chanson qui existe. Et Nina Simone, c'est quelqu'un qui arrive à que faire ça.
Comprenez-moi, ou littéralement, ne me laissez pas être incomprise. Don't let me be misunderstood. C'est le titre d'une chanson qui fait le portrait de Nina Simone. Une chanson spécialement écrite pour elle par un trio d'auteurs-compositeurs. Frédéric Adrian.
C'est le titre qu'elle a choisi pour son autobiographie, ou qu'on a choisi pour elle, parce que je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup contribué à son autobiographie. Et c'est sa volonté tout au long de sa vie d'essayer d'expliquer, de faire comprendre son ressenti, son passé, sa vie, sa façon de voir le monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup cherché à communiquer, pas toujours de la bonne façon, parce que c'est parfois passé par une forme d'agressivité qui l'a sans doute pas aidé à se faire entendre et à se faire comprendre. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est malade. Il faudra attendre quasiment les années 70 pour qu'elle ait des mots qui sont posés sur sa maladie, ce qu'on appelle la bipolarité. Ça se traduit par des comportements, on va dire, qu'elle a du mal à maîtriser et qui aboutissent à des grandes, grandes crises de colère, y compris en public. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui a vraiment cherché à faire passer tout au long de sa vie son message.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Soul whose intentions are good.
understood. I try so hard, so please don't let me be.
Ce matin, Pop & Co, c'est elle, Eunice Kathleen Waymon, dite Nina Simone. Birmingham, Alabama, 15 septembre 1963. À la télé, le présentateur du journal dit « Ils sont morts à Birmingham, la ville la plus ségrégationniste du pays. De la dynamite a explosé dans une église, 4 fillettes ont été tuées, 22 autres ont été blessées. » Ça, c'était la voix du poète James Baldwin, dont je vous traduis les propos. Ici, à Birmingham, des enfants ont été assassinés, un dimanche au catéchisme, dans une nation chrétienne, et tout le monde s'en fiche. Cet attentat à la bombe contre des Afro-Américains a été commis par des membres de l'organisation terroriste, le Ku Klux Klan. La même année, en juin, Medgar Evers, militant de la lutte pour les droits civiques, est assassiné par balle dans le Mississippi. Alabama, Mississippi, deux mots que Nina Simone va chanter dans une chanson dont elle a écrit le texte et la musique. C'est Mississippi Goddamn. Frédéric Adrian.
Mississippi Goddamn, c'est la première grande chanson qu'elle écrit. Avant, il y a des petits trucs, mais pas de choses marquantes, des petites chansons pop. Mississippi Goddamn, c'est probablement la première chanson où elle laisse parler sa colère. Et elle a envie de se venger. Elle veut trouver une arme, elle veut aller tirer sur des gens, enfin des choses un peu compliquées. C'est son mari, de l'époque, qui la stoppe en disant « Mais non, tu vas pas aller tirer sur les gens, tu sais pas utiliser une arme, c'est une très mauvaise idée. Par contre, tu as une vraie arme, et cette vraie arme, c'est ta musique. » Et sa colère, elle est extrêmement perceptible. Et c'est une chanson d'actualité qui est ancrée dans le moment où elle l'écrit, puisqu'elle parle de Birmingham, elle parle de toutes les manifs. D'ailleurs, à l'époque, elle l'actualise de façon très régulière. Elle glisse le nom des dernières villes où il y a eu des incidents. C'est pas très compliqué à cette période-là des États-Unis. Et c'est une vraie chanson de protestation.
1964, New York, scène du Carnegie Hall.
The name of this tune is Mississippi Goddamn.
Le titre de cette chanson, c'est Mississippi Goddamn.
And I mean every word of it.
Et je pense chaque mot de cette chanson.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn.
L'Alabama m'a rendu folle de rage. Le Tennessee m'a fait perdre le sommeil. Et tout le monde sait ce qu'il en est pour le Mississippi, bon Dieu.
Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet.
C'est une chanson pour un spectacle, mais celui-ci n'a pas encore été écrit.
Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last.
La meute de chiens est à mes trousses. Les écoliers sont en prison. Chaque jour me semble devoir être mon dernier.
Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer.
C'est une colère qui bouge en fait, c'est une colère active.
Don't tell me, I'll tell you.
Donc avec le rythme qui l'accompagne. Et surtout, sa volonté, c'est de parler aux gens. Je pense qu'avec ce morceau-là, il y a vraiment la volonté, non pas de faire une déclaration, mais de le mettre sa colère dans une forme qui lui permette de la partager avec le maximum de gens. La forme un peu ludique, un peu, elle parle de comédie musicale quand elle la présente, c'est vraiment l'idée de toucher le maximum de monde. D'ailleurs, elle va la chanter beaucoup à la télé. Elle est semi-censurée par la télé américaine qui lui demande de pas dire, parce que Goddamn est un très gros mot.
Il y a même ça un... veut dire quoi, Goddamn?
Ça veut dire bon Dieu, globalement. C'est pas très très grave comme mot, mais c'est un bon prétexte pour la censurer. Et d'ailleurs, son label publie une version 45 tours pour les radios en mettant un bip sur le gros mot pour que les radios puissent le passer quand même.
I
bet you thought I was kidding, didn't you?
Je vous ai fait croire que je plaisantais, n'est-ce pas?
Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on
Les piquets de grève, le boycott des écoles, ils veulent nous faire croire que c'est un complot communiste. Vous m'avez dit de nettoyer mes oreilles et de parler correctement comme une dame. Mais tout ce pays est empli de mensonges. Vous allez tous mourir comme des mouches. Je ne vous fais plus confiance. Vous n'avez pas besoin de vivre à côté de moi. Donnez-moi juste l'égalité. En 1965, Nina Simone chante Mississippi Goddamn à Montgomery, Alabama, face à des milliers de marcheurs pour les droits civiques. La scène sur laquelle elle joue a été construite sur un empilement de cercueils prêtés par les pompes funèbres locales. Martin Luther King est présent ce soir-là.
Ils se présentent l'un à l'autre et la première chose qu'elle lui dit, c'est moi je ne suis pas non-violente. Je suis content de vous rencontrer, mais je voulais vous dire, moi je ne suis pas non-violente. Et lui répond... Ça va, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Mais elle a toujours eu ce positionnement, même si elle a soutenu les actions du Dr. King, même si elle lui a rendu hommage juste après sa mort, elle, son goût, il va plus vers des formes plus radicales, autour des Black Panthers, d'une façon générale. Le côté très optimiste de Martin Luther King, qui, la veille de son assassinat, fait un discours en disant « Je suis au sommet de la montagne et je vois vers où on va », ce n'est pas le cas de Nina Simone. Quelque part, elle voit toujours le scénario du pire dans ces choses-là. Et elle dit, attention.
Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est 20h20.
Nous sommes le 4 avril 1968.
Jean-Pierre Elkabbach présente Interactualité.
C'est sans doute la fin d'une époque. La haine et la violence prennent de vitesse l'amour et l'espoir que prêchait le pasteur Luther King. Jacqueline Kennedy pleure l'homme qui est mort comme son mari. L'Amérique pleure aussi la tragique disparition du prince noir de la violence et de la non-violence surtout. Elle prend d'un coup conscience de l'ampleur et de l'urgence du problème noir, qui est surtout le problème des blancs. Pour le chef de Black Power, Carmichael, le pouvoir et la justice sont au bout du fusil. Il demande des fusils pour les noirs. Il demande aussi la vérité. L'effervescence règne dans la communauté noire des États-Unis. Les autorités redoutent une explosion raciale comme le pays n'en a jamais connu.
7 avril 1968, jour des funérailles de Martin Luther King à Atlanta. Nina Simone, elle, donne un concert au Westbury Music Fair de New York. Elle interprète un morceau écrit par son bassiste, Gene Taylor. Le titre de cette chanson, c'est « Why the King of Love is Dead ?» Pourquoi le roi de l'amour est mort ?
Once upon this planet Earth, lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow men. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay.
Qui peut continuer? Vous réalisez combien nous en avons perdu? Mais c'est la réalité, n'est-ce pas? Ce n'est pas un spectacle. Pas de micro et toutes ces merdes, mais vraiment autre chose.
We can't afford any more losses.
On ne peut pas en perdre d'autres, oh non. Ils nous tirent dessus un par un. N'oubliez pas ça. Car c'est la vérité. Ils nous tuent un par un.
If you have to die, it's all right. Cause you know what life is. You know what freedom is for one moment of your life. What's gonna happen now that the king of
Le mouvement de lutte pour les droits civiques, comme beaucoup de mouvements du XXe siècle, on va dire, c'est des mouvements d'hommes. En bonne partie, les femmes sont reléguées dans des rôles secondaires. Il y a des femmes chez les Black Panthers, mais les femmes, elles vont s'occuper des programmes sociaux, des programmes de nourriture, par exemple, de cantines gratuites, de choses comme ça. Elles sont pas mises en avant comme les autres combattants, parce qu'il y a aussi une culture viriliste autour de toutes ces choses-là. Enfin, les Black Panthers, c'est un mouvement qui est globalement machiste, comme les autres mouvements politiques de cette époque-là. C'est pas quelque chose sur lequel ils sont innovants, à l'exception très particulière d'Angela Davis, dont Nina Simone est proche, qu'elle va voir en prison, à qui elle parle souvent. Elle a un entourage féminin fort, pas dans ses musiciens, pas dans les gens avec qui elle travaille, mais dans son entourage amical, donc Lorraine Hansberry, la dramaturge, Myriam Makeba, qui est son amie de cœur et qui le reste toute sa carrière, elle chante très très souvent ensemble, Betty Shabazz, qui est sa voisine quand elle habite à New York et qui est la veuve de Malcolm X, donc qui est une personnalité engagée et qui est aussi, là pour le coup, qui est sans doute l'une des femmes les plus visibles dans le monde des Black Panthers. Tout ça, c'est ses amis et c'est les gens avec qui elle réfléchit ou elle construit sa réflexion. Est-ce qu'elle a un affichage féministe clair? J'en suis pas si sûr. Il n'empêche qu'elle fait des choix d'inclusion d'une dimension féminine dans son œuvre. Quand elle fait son album blues dans les années 60, quand on regarde le répertoire, il y a beaucoup de chansons qui sont écrites par des femmes. Donc elle n'a pas besoin de faire cet affichage-là dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle raconte. La dimension féministe, elle est présente par le choix de répertoire et les histoires qu'elle choisit de raconter.
Et parce qu'elle incarne, elle incarne la rébellion, Nina Simone.
Elle incarne une forme d'autonomie, une forme de liberté, elle ne cache pas sa féminité. Par exemple, quand on regarde les photos des années 60, elle porte des tenues sexy, elle porte des tenues transparentes. C'est pas du tout une féminité réprimée. À la fois physiquement et à la fois dans les idées et dans sa pensée, toutes ces choses-là sont affichées très très fortement. Mais c'est une féminité rebelle, en particulier par rapport à la vision de la femme des années 50, 60, 70. Bien entendu, elle s'assume ce choix d'être sur scène, de se mettre en avant, d'être instrumentiste. Il n'y a pas tant de femmes que ça à cette époque-là, en dehors du milieu du jazz, et même dans le milieu du jazz, c'est quand même très, très limité, qui sont leurs propres patronnes artistiques. Certes, il y a des producteurs qui travaillent, qui aident, qui mettent en forme, qui éventuellement écrivent un petit peu pour elle. Mais ses disques, c'est ses disques à elle. C'est elle qui joue, c'est sa voix qui porte, et sans doute c'est elle qui choisit les morceaux.
Quatre femmes, Four Women, est une chanson que Nina Simone écrit et compose en 1966. Le portrait de quatre Afro-Américaines, une femme âgée, une métisse, une prostituée et une révoltée, prête à prendre les armes. L'un des hommes qui ont joué un rôle dans la carrière de Nina Simone s'appelle Andrew Stroud. Andrew Stroud fut son manager et son mari.
Son mari, très clairement, il a les sous en tête. c'est un sale type, il n'y a aucun doute là-dessus.
Il est tapé dessus.
Il tape dessus, il la maltraite, il l'a fait beaucoup travailler à des moments où peut-être elle aurait mieux fait d'être protégée et de moins travailler. Il n'empêche qu'il a à cœur de réussir sa carrière, parce que lui aussi en profite, bien entendu, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Lui, son objectif, c'est Las Vegas, c'est les clubs, c'est ce que fait Sinatra. Il la voit très bien dans ce répertoire-là, répertoire qu'elle connaît. Quand on regarde ses premiers disques, quand elle fait Porgy, quand elle fait toutes ces choses-là, tout ça conduit très très bien vers les lumières de Las Vegas. Mississippi Goddam, beaucoup moins.
Donc il tente de la réfréner.
Donc il tente de lui expliquer que peut-être c'est pas la façon la plus raisonnable de faire des disques et de faire carrière dans le métier. D'ailleurs, elle le payera. Ça lui a coûté très cher. De toute façon, on le sait bien. Si sa carrière, elle connaît un ralentissement très très fort à partir de la fin des années 60... commercialement, c'est aussi parce que ses prises de position publiques, et qui en plus s'invitent volontiers dans les concerts, puisqu'il peut lui arriver d'interpeller le public sur ces choses-là, finissent par décourager les gens qui voudraient miser de l'argent professionnellement sur elle dans le monde de la musique. Mais c'est aussi ça qui lui donnera une stature plus importante à la fin de sa vie, parce que tout le monde sait qu'elle a raison. Tout le monde sait que l'engagement en faveur des droits civiques, c'est la position qu'il fallait prendre à cette époque-là. Et les artistes qui sont restés peut-être un peu plus discrets sur ces choses-là, l'histoire ne leur est pas obligatoirement très, très indulgente. Et puis aujourd'hui, dans sa stature posthume, on va dire, son engagement inconditionnel toute sa vie joue un rôle important.
1970, Nina Simone écrit « To be young, gifted and black », être jeune, noir et doué, en hommage à son amie la dramaturge Lauren Hansberry.
Pour moi, en tant que féministe, en tant que femme noire, en tant que femme noire queer...
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Mélissa Lavoux, musicienne.
Une déesse, je sais pas. C'est tellement important. Il y a pas 50 000 personnes qui ont écrit des chansons comme « Young, gifted and black ». Et c'est fou combien ça lui a coûté alors que la chanson elle dit « To be young, gifted and black ».
Alors... être jeune, doué et noir.
Oui. Ce qu'elle dit, c'est genre, vous savez, nous, avec l'histoire qu'on a eue, avec ce qu'on nous a dit, genre le peuple afro-américain était moins intelligent ou était voué à l'échec. Et elle était comme « Non, 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 moi je vous dis « To be young, gifted and black ». Et je trouve ça tellement fort et fou que d'avoir chanté cette chanson lui ait coûté autant à sa carrière et que son appartenance à différents partis politiques et partis militants ont fait en sorte que des concerts ont été annulés ou que les programmateurs lui disent « Non, mais chantez des chansons mignonnes, quoi, des chansons de Gershwin, chantez ce que les gens veulent entendre ». Mais en fait, ce que ça sous-entend, c'est chanter ce que les gens blancs veulent entendre. Ça, c'est votre public payant. Et elle avait du mal à faire juste la jolie chanteuse qui monte sur scène pour chanter un truc de manière sensuelle et suave. C'est quelqu'un qui a refusé d'être une marionnette. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. Oh.
feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
France Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Hello.
Ce matin, Pop & Co est dédié à Nina Simone. Son histoire a commencé à Tryon, sa ville natale en Caroline du Nord. Ensuite, ce fut les bars d'Atlantic City avant la reconnaissance au Carnegie Hall à New York. Et là, nous sommes au festival de Montreux. Nina Simone est sur scène. On est en 1976. C'est l'été.
You didn't forget me, hein? That's what's so wild. You didn't forget me.
Vous ne m'avez pas oublié, hein? C'est dingue.
I didn't expect you to.
Je n'en attendais pas moins de vous.
But I'm tired.
Mais je suis fatiguée.
You don't know what I mean.
Et vous ne pouvez pas comprendre.
And there are many people.
Beaucoup de gens du show business disent « Oh, elle a été une star, mais elle a touché le fond » et d'autres conneries qui ne m'affectent pas.
Alors, elle n'avait pas joué depuis très longtemps.
Frédéric Adrian, auteur d'une biographie de Nina Simone.
Alors, elle n'avait pas joué depuis très longtemps. Elle revient de son séjour au Liberia, où elle a joué uniquement pour ses amis. Elle n'a pas joué professionnellement depuis longtemps. Elle vient à Montreux parce que sa fille est à l'école en Suisse, et que Claude Nobs, qui la connaît bien, qui est le patron, qui est l'âme du festival de Montreux, qui l'a fait passer au festival dès les tout débuts, la sollicite et lui propose de venir jouer quelques morceaux. Et c'est un drôle de moment. Nina Simone, elle ne va pas très bien. On voit que c'est quelqu'un qui souffre. On voit qu'elle est malheureuse. Et il n'y a plus d'écart entre la représentation et sa personne à ce moment-là. Elle est toute dans sa souffrance. Et le concert, il tombe en morceaux au fur et à mesure. Les premiers morceaux sont plutôt chouettes. Et au fur et à mesure, les choses plongent. C'est dans ce concert-là qu'elle joue Feelings, le tube de Maurice Albert, qui n'est pas obligatoirement la plus grande chanson de tous les temps. Je ne suis pas sûr qu'elle l'a enregistrée, d'ailleurs. Et au moment où elle chante ses chansons, à plusieurs reprises, elle s'interrompt pour dire « Mais comment est-ce qu'on peut écrire un truc comme ça ?» En même temps qu'elle la chante, elle se rend compte que la chanson est nulle.
« Sit down !»
Et puis une femme se lève dans le public et Nina Simone lui ordonne de s'asseoir.
« Sit down !»
Mais en dehors de ces moments-là, il y a plusieurs sommets pendant ce concert de Montreux en 1976. Celui où Nina Simone chante Stars, une chanson de Janis Ian. Même si le texte n'est pas d'elle, il raconte ce qu'elle vit à ce moment-là, la solitude, la gloire déchue. Les paroles disent « Les gens aspirent à la gloire comme des athlètes dans un match. Certains sont couronnés. » Et d'autres sont abattus.
Some women have a body men will wanna see. So they put it on display. Some people play a fine guitar. I could listen to them play all day. But anyway.
C'est étrange parce que c'est une chanson qu'elle n'a jamais chantée avant, pour autant qu'on sache, mais très clairement elle projette, et c'est pour ça que c'est une grande interprétation, parce que là, il y a une fusion qui se fait, et ce qu'elle est en train de... elle raconte ce qu'elle est en train de vivre, elle raconte quelque part sa souffrance à être en train de chanter, et le fait qu'elle la raconte en même temps qu'elle chante et qu'elle souffre simultanément, ça donne une puissance à son interprétation qui pour moi est presque difficile à écouter.
story that I know is the one that I'm supposed to go out with.
Dans les années 70, la carrière de Nina Simone décline. Elle paie le prix de ses engagements politiques, son répertoire est moins dans l'air du temps, et sa maladie a de plus en plus d'emprise sur elle. Elle quitte les États-Unis, part au Liberia, et finit par s'installer définitivement en France, en Provence. Quand soudain, en 1987...
Quand soudain, il y a une pub pour du parfum qui décide d'utiliser cette chanson-là.
Cette chanson, c'est donc « My Baby Just Cares For Me », paru près de 30 ans plus tôt, en 1958, sur le tout premier album de Nina Simone.
Parce que les droits sont pas chers, parce que c'est facile de l'utiliser, et pour des raisons mystérieuses, le public décide de tomber amoureux de cette chanson-là. D'un seul coup, ça sort en 45 tours, il y a un clip qui est fait, sans l'accord de Nina Simone, qui est fait par les gens qui feront Wallace et Gromit après. D'ailleurs, elle le déteste, bien entendu.
Le clip.
Mais peut-être la chanson aussi, quand on y réfléchit. Et donc, elle se retrouve à devoir aller exhumer cette chanson sortie de son premier album, sur laquelle elle ne touche aucun droit parce qu'elle a signé un contrat très très peu en sa faveur à cette époque-là, et qu'évidemment, elle ne peut pas revenir dessus. Et d'un seul coup, elle se retrouve, alors qu'elle jouait dans les petits clubs, dans des toutes petites salles à Paris, il n'y a pas beaucoup de petites villes en France qui n'a pas accueilli Nina Simone dans les années 80, dans une MJC ou dans des salles de petites dimensions. Et d'un seul coup, elle se retrouve à la mode. Elle se retrouve à avoir un nouveau public, y compris un public jeune, puisque la chanson elle se classe au top 50 de façon extrêmement improbable, et ça relance sa carrière avec une chanson qui est sympathique, mais qui n'est quand même pas à la hauteur des grands chefs-d'œuvre des années d'après. D'ailleurs, on voit bien dans les versions publiques de cette époque que Nina Simone n'a aucune envie de jouer ce truc-là, et on sent sa lassitude quand elle l'interprète. En particulier, on la voit annonner la chanson. Il y a des passages d'émissions de télé où elle est obligée de la faire et où on sent bien l'absence d'intérêt qu'elle éprouve pour ce truc-là. Mais ça lui a sauvé les 15 dernières années de sa vie, ça a relancé sa carrière, en particulier par le biais des concerts, et ça a probablement un peu sauvé sa vie sur les dernières années.
Nina Simone meurt à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, le 21 avril 2003. Elle n'a pas été inhumée aux États-Unis. Ses cendres ont été dispersées sur le continent africain.
Elle avait beaucoup de rancœur par rapport aux États-Unis. Elle a gardé longtemps un appartement à Los Angeles où elle faisait des petits allers-retours, en particulier quand elle allait travailler aux États-Unis. Mais elle disait, dès les années 90, au moment où son succès est revenu, qu'elle supportait pas de rester plus de quelques jours, qu'elle pouvait venir pour travailler, mais qu'elle s'imaginait pas d'y vivre. Elle a toujours été très hostile à tous les présidents américains, quels qu'ils soient. Elle a beaucoup exprimé son hostilité, en particulier à George Bush et aussi au président antérieur. À chaque fois qu'elle venait aux États-Unis, elle glissait quelques petites piques assassines contre le pouvoir en place. Puis finalement, les choses ne se sont jamais améliorées au point où elle aurait pu l'espérer. Et donc, je pense qu'elle a gardé une très forte rancune par rapport aux États-Unis toute sa vie.
Wink at a man and he winked back. Now I'm child, she like a woman. Empty his pockets and wreck his days. Make him love her and shoot fly away. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000 she weighs.
La biographie de Frédéric Adrian dédiée à Nina Simone a paru aux éditions Le Mot et le Reste. Quant à Mélissa Lavaux, son nouvel album Mama Forgot Her Name Was a Miracle, il paraît le 11 mars. Elle y met en scène, et surtout en musique, des héroïnes oubliées de l'histoire. À suivre, une nouvelle voix de la soul américaine, pour mettre un point final à ce Pop & Co.
Il s'appelle Curtis Harding et ce titre Forevermore est en playlist sur France Inter.
I can't keep my cool.
Un truc, plusieurs des archives de ce Pop and Nina sont tirées d'un très bon documentaire de Liz Garbus. Le titre, c'est What Happened, Miss Simone. Il est possible de le visionner sur une plateforme qui commence par un N et qui finit par un X. Koyan Guyen a réalisé Pop & Co avec Tiffany Battistel ce matin. Merci à Ilinka Negulesco et Emma Ferret pour la préparation de cette émission. Et maintenant, vous le savez, Jean-Baptiste Audibert est le nom de notre programmateur musical. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Disco pour une histoire de poche de la musique disco. À samedi!